Merci d'écouter RFI, les 8h30 à Paris et Brazzaville, 10h30 à Nairobi. L'heure du journal. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Andréane, bonjour à tous. À la une ce matin, des négociations qui s'annoncent difficiles. Début aujourd'hui de la COP29 à Bakou en Azerbaïdjan. Vous entendrez dans un instant le négociateur en chef de la République démocratique du Congo. Alors que les pays africains veulent obtenir des financements 10 fois plus élevés qu'aujourd'hui pour leur adaptation aux conséquences du changement climatique. Dans ce journal également, le Cameroun. Nouvelle audience aujourd'hui au procès de l'assassinat de Martinez Zogo. Audience toujours consacrée aux questions de procédure. L'avocat des ayants droit du journaliste assassiné l'an dernier déplore qu'on tarde à entrer dans le vif du sujet. L'Égypte, le Caire s'inquiète d'un afflux de réfugiés qui ne tarit pas en provenance du Soudan en guerre. Et reportage à Bangui, où les autorités ont lancé la campagne Consommons local sur les marchés de la capitale centrafricaine. Campagne qui vise à faire la promotion des savoir-faire locaux. Question de financement, question de gros sous, de nouveau sous la table. Une nouvelle COP débute aujourd'hui à Bakou, en Azerbaïdjan, la COP29, 2 semaines de négociations, lors desquelles il sera débattu notamment d'un nouvel objectif d'aide financière aux pays en développement pour qu'ils réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre et pour qu'ils puissent faire face aux conséquences du changement climatique. Une aide nécessaire. Mais un contexte géopolitique compliqué, reconnaît Tosim Panumpanu. Il est le négociateur en chef de la République démocratique du Congo à cette COP.
Aujourd'hui, on se retrouve bien sûr dans un contexte géopolitique assez compliqué, avec des crises armées qui affectent certaines régions de la planète et qui elles-mêmes parfois minent un peu la confiance dans le système multilatéral, puisque certaines résolutions onusiennes sont bafouées, ne sont pas respectées. Et on se dit, si jamais le droit international ne prévaut pas dans certains domaines, comment est-ce qu'il pourra faire autorité en ce qui concerne l'action climatique? Et bien entendu, il y a l'élection américaine qui vient de se dérouler, M. Trump qui a été réélu. Nous savons qu'il fait partie de ce groupe de climato-sceptiques que l'on connaît, et il était partisan de la sortie des États-Unis de l'accord de Paris, et même la sortie des États-Unis carrément de la Convention climat, sur laquelle repose donc la gouvernance internationale sur le climat. Et donc, c'est assez préoccupant puisque les engagements auxquels les États-Unis ont souscrit au niveau international en termes d'action, en termes de financement, risquent de ne pas être respectés. Mais si jamais les pays développés ne respectent pas leur engagement, cela risque de miner la confiance et de créer effectivement un peu de désengagement de la part des uns et des autres.
Tosim Panumpanu, négociateur en chef de la République démocratique du Congo à la COP29, joint par Jeanne Richard. Et cet objectif de plus de 1 000 milliards de dollars par an, mais aussi les conséquences potentielles du retour au pouvoir aux États-Unis de Donald Trump, on les évoque aussi avec notre invité ce matin, Seni Nafo, porte-parole du groupe des négociateurs africains. Entretien avec Christophe Wabouvier à écouter après ce journal et à retrouver sur RFI.fr. Un débat qui est en cours en ce moment en République démocratique du Congo, c'est celui d'une potentielle révision de la Constitution. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, estime que le texte actuel ne permet pas de répondre aux défis auxquels le pays est confronté. L'annonce le mois dernier a valu une levée de bouclier de l'opposition et de la société civile de RDC, mais aussi d'une partie des alliés du président, craignant que celui-ci n'en profite pour briguer un troisième mandat. Réaction ce matin du communicateur de l'Union Sacrée, c'est-à-dire la coalition de la majorité présidentielle, Thierry Monsenempo, pour qui ce sont ceux qui refusent le débat qui se trompent.
Le président de la République, Félix Tshisekedi, l'a d'ailleurs souligné avec insistance. Seul le peuple est souverain et c'est à lui que revient la décision finale. Cette démarche de révision n'est en rien un déni de démocratie. Bien au contraire, c'est une manière d'émanciper notre constitution pour mieux répondre aux défis actuels du pays. Qui sont ces individus pour s'opposer à un processus aussi démocratique? Ne s'agit-il pas, au fond, d'un groupe de pseudo-intellectuels qui se drapent du manteau de la démocratie tout en refusant au peuple le droit de s'exprimer librement? Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que certains parmi eux, par le passé, ont eux-mêmes plaidé pour une révision de cette même constitution. Leur revirement actuel démontre que leur position est loin d'être objective. Au contraire, elle est empreinte d'opportunisme, ce qui fausse totalement le débat. Au final, il est clair que leur position n'est pas motivée par une volonté de protéger les intérêts du peuple, mais par des calculs politiques égoïstes. Laissons le peuple décider décider de l'avenir de notre constitution. Car c'est cela, la véritable démocratie.
Thierry Monsenwempo, communicateur de l'Union Sacrée, c'est-à-dire la majorité présidentielle de RDC. Au micro de Pascal Moulégua à Kinshasa, où il est maintenant 8h35, même heure à Yaoundé, où une nouvelle audience est prévue aujourd'hui, au Cameroun donc, mais le fond de l'affaire ne devrait toujours pas être évoqué. Ce lundi, audience au procès de l'assassinat de Martinez Zogo, ce journaliste star du Cameroun, retrouvé mort au début de l'année dernière à Yaoundé. Nouvelle audience donc, aujourd'hui, une nouvelle fois consacrée à des questions de procédure, comme c'est le cas depuis l'ouverture du procès au mois de mars. Et pour maître Calvin Job, avocat des ayants droit de Martinez Zogo, si la procédure traîne autant en longueur, c'est la faute du tribunal.
À ce rythme, moi je peux vous dire que je pense que 2026 nous trouverons encore dans ce procès. Si le tribunal militaire n'avait pas eu cette attitude dès le départ de ne pas nous communiquer le dossier, nous n'en serons pas à ces exceptions, à ces incidents qui sont soulevés de manière continue. La responsabilité de la lenteur de cette procédure revient au tribunal militaire, même s'il y a des exceptions qui sont tout le moins farfelues, mais c'est les droits de la défense, c'est le droit des avocats de faire valoir leurs droits, mais c'est aussi au tribunal militaire d'éviter des blocages, d'éviter des obstacles en communiquant le dossier. Une fois qu'on aura communiqué aux parties, je pense qu'il y aura plein de questions de zones d'ombre qui n'auront plus besoin d'être soulevés avant que les débats au fond ne soient ouverts devant le tribunal militaire.
Maître Calvin Job, avocat des ayants droit de Martinez Zogo, joint par Amélie Tullet. Et l'une des questions de procédure de ces derniers mois, justement, c'était la question de l'accès au dossier pour les avocats. Le tribunal les autorise uniquement à le consulter sur place. Ils n'ont pas le droit de faire de copie, par exemple. Et c'est maintenant la Cour suprême camerounaise qui est saisie de cette question. Dans l'actualité, ce matin également, l'armée tchadienne qui reconnaît une nouvelle fois des pertes importantes dans la région du lac Tchad. L'état-major indique que des combats samedi avec des djihadistes de Boko Haram ont fait 17 morts dans ses rangs, dont plusieurs haut gradés. Et dans son communiqué, l'armée tchadienne assure aussi avoir tué une centaine d'ennemis. La région du lac Tchad, où l'armée tchadienne mène depuis fin octobre une opération de représailles contre Boko Haram après une attaque qui avait coûté la vie à une quarantaine de militaires tchadiens. Le Tchad, pays voisin du Soudan, qui accueille depuis l'an dernier, depuis le début de la guerre au Soudan, plusieurs centaines de milliers de réfugiés sur son sol et autres pays concernés au premier rang. C'est un autre voisin du Soudan, l'Égypte, où les réfugiés soudanais se trouvent principalement dans les villes, le Caire, Alexandrie ou encore la ville d'Assouan. Le Haut Commissariat aux réfugiés et les autorités égyptiennes alertent sur la gravité de la situation, alors que des centaines de personnes continuent chaque jour de traverser la frontière. Précision, explication avec Nadia Ben Mahfoud.
Plus des deux tiers des réfugiés en Égypte sont soudanais. C'est ce qu'affirme Christine Béchi, l'adjointe des relations extérieures du HCR en Égypte. Au début du conflit, l'Égypte accueille ses voisins les bras ouverts. Aucune contrainte administrative n'est imposée aux femmes, aux enfants et aux hommes de plus de 50 ans. Mais face à l'afflux de réfugiés, des milliers chaque jour au début de la guerre, les autorités durcissent l'accès à leur territoire. L'Égypte commence par imposer un visa de 1 500 $ par personne. À cela s'ajoute l'obtention d'une autorisation de sécurité préalable en plus d'un visa consulaire, mais ces mesures n'empêchent pas les Soudanais de franchir clandestinement la longue frontière qui sépare les deux pays. La pression est immense et le fardeau qui pèse sur l'Égypte est insoutenable, alerte le HCR Égypte, qui appelle à la mise en place immédiate d'une aide internationale. En 2024, le plan d'aide humanitaire au Soudan n'a obtenu qu'un peu plus de la moitié des financements nécessaires.
Ces déclarations de Vladimir Poutine, le président russe qui promet un soutien total et continu aux pays africains qui étaient présents à Sotchi ce week-end pour une rencontre Afrique-Russie au niveau des ministres. Pour Thierry Vircoulon, chercheur de l'Institut français des relations internationales, il n'y a pas grand-chose de neuf dans ces déclarations, mais surtout, il estime que ces promesses ne se concrétisent pas vraiment.
Ce sont les déclarations habituelles. On a d'ailleurs l'impression que c'est un copier-coller des déclarations de l'époque de la guerre froide. Ça montre bien qu'on est de nouveau dans une période de guerre froide. On voit que c'est que de la rhétorique d'ailleurs et en grande partie du bluff puisque les échanges entre la Russie et l'Afrique ne représentaient pas grand-chose avant la guerre en Ukraine et qui représentent probablement encore moins maintenant depuis que la guerre a débuté en Ukraine. Même si la Russie donne ses dons d'emblée en pétrole gratuitement à quelques pays, il faut bien savoir que sur le marché de ce pays, ces produits sont vendus et donc ne sont pas donnés aux consommateurs. Donc ça illustre le côté tout à fait faux de ces promesses d'aide. Et il y a beaucoup de gouvernements africains qui essaie en effet d'avoir des relations aussi bien avec la Russie qu'avec les Européens et les Américains, comme pendant la guerre froide d'ailleurs. Donc on est aussi toujours dans les mêmes stratégies d'opportunisme politique.
Le chercheur Thierry Vircoulon. Enfin, en Centrafrique, il s'agit de valoriser les cultivateurs et les savoir-faire locaux. La campagne Consommons local jusqu'à la fin du mois dans plusieurs marchés de Bangui. Reportage de Rolf-Steve Domialeux.
Avec des produits de l'agriculture, de la pêche ou de l'élevage, plusieurs dizaines de femmes mettent à découvert le potentiel de la République centrafricaine. Sébastien, qui consomme les produits locaux, est frappé d'une vive admiration.
J'ai vu des produits agricoles, des bananes, le manioc, les bananes plantain, les arachides, vraiment les produits de première nécessité. C'est vraiment appréciable.
Tout le monde est là dans la concession de la Fédération des associations des femmes entrepreneurs de Centrafrique Fafeka pour faire valoir leur production. Gladys Adora est cultivatrice.
Je suis dans l'allégresse parce que enfin les femmes centrafricaines ont pris conscience de valoriser nos produits. On a beaucoup de produits sur notre territoire et aujourd'hui la Fafeka nous a réunis tous pour valoriser nos produits locaux.
Mais le monde rural centrafricain est en proie à de nombreuses difficultés. Porcia Deya Abazen, présidente de la Fafeka, énumère quelques solutions.
Les femmes, elles sont vraiment déterminées, sauf qu'elles n'ont pas les moyens. La mécanisation de leurs moyens, l'industrialisation de ces moyens-là. Justement, il faut les encadrer, il faut les former.
L'agriculture occupe une place importante dans la stratégie de développement du pays, mais ce secteur peine à décoller à cause de l'insécurité et la dégradation des routes dans certaines régions du pays. Certains agriculteurs déplorent aussi un manque d'accès au financement et aux semences. Rolf-Steve Domialeux, Bangui, RFI.
À Bangui, en Centrafrique, il est maintenant 8h42 et vous êtes avec Andréane Mellard pour la suite d'RFI Matin.